les apôtres, il y avait deux catégories de juifs. Et il y avait ceux qui croyaient à la résurrection et puis ceux qui pensaient que la résurrection n'existait pas. Et on appelait, donc vous aviez l'école de Hillel et puis vous aviez l'école de Shammai. Les Sadducéens étaient un peu bizarres, mais ils avaient la foi, hein, mais c'était très liturgique leur histoire, c'était la liturgie, et puis assez politique aussi, enfin tout ce qui était, ça avait un sens de l'organisation extraordinaire, d'ailleurs c'est eux qui dirigeaient tout, parce qu'ils avaient un sens du détail, du respect, de la fidélité, voilà, c'était un peu, ils n'étaient pas forcément rigides, mais tout de même, ils étaient. Ils disaient, enfin, faut pas trop exagérer. Les anges, c'est symbolique. La résurrection, bon. Je me rappelle quand j'étais jeune prêtre, on rencontrait des prêtres comme ça. On faisait. Quand j'étais des prêtres, et puis je sortais du milieu, Père Emmanuel, de Montmorin, tout ça. On avait des réunions avec les prêtres diocésains qui disaient ça. Ils disaient, j'ai dit, mais vous croyez pas à la résurrection? Mais si, bien sûr, on croit à la résurrection, mais vous avez quand même pas. Ils disaient, vous avez quand même pas. Dire, ça y est, pop, t'es ressuscité. Mais c'est pas ça. C'est sûrement pas ça. C'est pas comme ça. Il faut avoir la foi quand même. Il dit, mais expliquez-moi alors. Alors, il dit, expliquez, il dit, voilà. C'est comme quand vous allez chez le, à l'hôpital, on met sous anesthésie générale, enfin vous tombez dans le coma, vous êtes en, puis on fait une opération. Et puis à la fin de l'opération, vous vous réveillez, voilà. Voilà, mais il y a eu une période entre la mort et puis après, voilà, où il se passe rien, quoi. Donc le purgatoire, c'est n'importe quoi, puisque il se passe rien, tu dors, ça s'arrête, il y a une parenthèse, quoi. Voilà, bon, bref, à l'époque, ça date pas d'aujourd'hui, évidemment, donc à l'époque, vous avez sûrement rencontré, d'ailleurs, peut-être pas vous, mais quand j'étais enfant, on a des prêtres qui... des gens très engagés, hein, qui disent, mais non, purgatoire, enfin, faut pas, c'est les anges, enfin, mais non, et les démons, tout ça, et c'est pas des petites gens, hein, c'est ceux qui sont au sommet de l'organisation, au sommet de l'autorité ecclésiastique, hein, et plus au sommet, hein. C'est pas ça qui construit, c'est pas ça, c'est pas ça la foi, c'est être dans la vie. La résurrection, c'est qu'on est engagé dans la vie. Voilà. Et puis il y a l'école de Hillel, qui est une école plus, quand même plus proche des Nassis d'Israël, c'est-à-dire la tradition mystique qui se renouvelle, qui se nourrit d'ailleurs. De la révélation, et des révélations d'ailleurs toujours réactualisées. Les nazis d'Israël sont les princes d'Israël. Voilà, donc Moïse et Aaron sont les deux premiers nazis d'Israël, et puis de génération en génération, les nazis d'Israël arrivent jusqu'à Hillel et Shammai. Et bon, c'est sûr, alors, donc Saint Paul, lui, était plutôt. C'est bizarre, Saint Paul, c'est quelqu'un qui était, il a un côté sadducéen, puis il a un côté pharisien. Il est pharisien parce qu'il était à l'école de Gamaliel et de Hillel, mais il est sadducéen parce que dans sa synagogue, c'est surtout des sadducéens, donc dans la pratique, il est devenu sadducéen. Donc il sait de quoi il parle, à l'univers. Mais parmi les juifs qui ont reçu le baptême chrétien, le baptême du Christ, le baptême du C'est sûr que c'est essentiellement et surtout des gens qui étaient ouverts à ça, comme les pharisiens. Enfin, qui étaient ouverts. Mais quand même, il y avait quand même pas mal, puisqu'ils étaient quand même très nombreux, les sadducéens. Donc il y avait dans la communauté chrétienne des gens qui ne croyaient pas vraiment à la résurrection des anges. Le monde spirituel. Nous, c'est sûr que nous, on est plutôt chez les mystico-dingos, donc les mystico-dingos, c'est le contraire. On croit uniquement aux anges, aux âmes errantes, au monde de la résurrection, presque on en rajoute, quoi. Voilà, mais ça, donc ça ne changera pas. La résurrection. J'ai su cette foi dans la foi que nous avons. C'est pas nous qui construisons la foi. C'est Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est l'histoire réelle. C'est la réalité de Dieu et la réalité de Jésus qui fait la solidité de la foi. La foi, c'est Dieu lui-même qui se révèle lui-même directement à nous. L'objet de la foi, c'est pas, on ne croit pas à une doctrine en disant, il y a une doctrine, on nous a expliqué qu'il y avait la résurrection, donc nous croyons à la résurrection. C'est pas une doctrine. L'objet de la foi, c'est Dieu lui-même qui se révèle directement à nous tel qu'il est et qui nous donne ce qu'il est et se manifeste tel qu'il est à nous. Il se révèle à nous. L'objet de la foi atteint Dieu en lui-même. Et il ne l'atteint pas en traversant des obstacles infinis et impossibles à traverser. Et c'est pour ça qu'il y aurait une espèce de bond dans la nuit, impossible à traverser sans faire un acte complètement nocturne. Non, non, c'est direct. La foi atteint Dieu. In substantia, in objecto, comme dit saint Thomas, c'est Dieu qui vient vers nous et manifeste ce qu'il est. Jésus manifeste Dieu tel qu'il est en lui-même. Et il explique, et il vit sur la croix, dans son union hypostatique déchirée, il vit divinement, cette révélation de Dieu à ceux qui ont la foi. Il est là en même temps la réponse et en même temps l'objet de la foi à ceux qui le désirent. Et c'est la réalité de la résurrection. C'est une manifestation de Dieu parce que c'est Dieu qui ressuscite l'union hypostatique désirée de Jésus en lui-même. C'est une révélation, de toute façon. C'est Dieu qui se révèle à chaque fois qu'il y a quelque chose à propos de Jésus. C'est Dieu qui se révèle dans ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. La foi atteint Dieu in objecto, directement. Et pas les différents articles, quoi, les différentes rubriques. Pas la foi, c'est pas la pénétration successivement dans les différentes rubriques qui rayonnent d'une doctrine, sinon ce serait une religion. La foi, c'est plus qu'une religion, c'est autre chose qu'une religion, c'est une vie. La vertu de religion, c'est naturel dans toutes les civilisations. Il y a une religion pour atteindre Dieu. Par les rubriques, par une doctrine, par une spiritualité. Tandis que dans la grâce du peuple de Dieu et des enfants de Dieu qui accueillent Jésus comme envoyé éternel du Père, c'est plus du tout une religion. Elle pénètre en Dieu objectivement, puisque c'est lui qui vient. Quelque part, le mouvement de la foi est un mouvement d'accueil, d'un moment où on reçoit ce mouvement de Dieu qui vient vers nous et qui révèle ses entrailles, qui révèle sa lumière, née de la lumière. La réveillant, du coup, notre foi l'accueille et puis surgit dans le Verbe de Dieu. Et nous voici engendrés du Dieu éternel. Je fais un acte de foi, je suis dans l'engendré éternel de Dieu. La lumière de la foi, et puis la lumière née de la lumière, le Dieu véritable, né du Dieu véritable. Ils sont deux lumières qui sont sans distance l'une de l'autre. À ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'accueillent, donne pouvoir de devenir ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à la manifestation accomplie de ce qu'il apporte, de tout ce qu'il est en lui-même pour nous le donner. Alors évidemment, il y a la mort de Jésus, il y a l'incarnation de Jésus, il y a la mort de Jésus. Il y a la résurrection de Jésus. Et c'est par sa résurrection qu'il détruit la mort. Donc quand on a la foi dans la résurrection, c'est Dieu qu'on atteint à l'intérieur de lui-même, qui vient se manifester en nous, que lui, il est la source de l'absence de toute mort. Et on vient avec lui, on est tout près de cette lumière, on la reçoit, et on assiste à ce fait que, dans cette révélation incarnée, il détruit la mort. Il détruit la mort, il passe dans la mort, et puis il détruit la mort pour donner la vie éternelle qui est en lui-même. Il révèle ce qu'il est en lui-même. À chaque fois qu'on donne la foi, on reçoit cet engendrement éternel, Dieu. Il ressuscite notre mort. Il se ressuscite lui-même. Il nous ressuscite tous. Et par sa résurrection, eh bien, il nous donne, il la révèle, et donc il nous la donne, parce que l'acte de foi atteint Dieu in objecto. Et quand la foi, la révélation nous est donnée, elle nous est donnée. Elle nous est donnée pour qu'elle nous soit donnée. Et pour qu'il y ait dans l'échange l'accueil du don. L'accueil, c'est la foi. Et du coup, l'échange de l'accueil du don, c'est la lumière surnaturelle de notre vie théologale. Et c'est forcément une rencontre prodigieuse, l'acte de foi. Et puis, la révélation. Dieu qui se révèle. Quand on dit la révélation, souvent on dit « Ah, oh, il y a la révélation, vous voyez. » La Bible, c'est la révélation. C'est un peu terrible, hein, finalement, cette histoire de protestantisme. La révélation, c'est la Bible. Mais non, la révélation, c'est pas la Bible. C'est vrai que, bon, la Bible, canoniquement, l'Église présente, mais quand vous avez la Bible, heureusement que les Juifs sont là pour nous le rappeler, la Bible, la Torah, c'est Dieu qui se donne lui-même à nous, sans voile directement, sans voile directement. Et c'est une rakata, c'est l'inspiration intérieure de Dieu, qui dans le face-à-face avec nous, nous inspire la même inspiration que celle qui est en lui. C'est une rakata, ça commence par un « hey », c'est une guette. Face à face, et puis ça se termine par c'est la même inspiration sponsale, le haine, le parfum intérieur de Dieu. C'est Dieu qui se donne et l'accueille dans le face à face lorsque est un accueil vivant, une rencontre prodigieuse, et quand on se nourrit de la révélation de Dieu qui se révèle, alors à ce moment-là, on nourrit. Tandis que quand on se nourrit de la Bible, on ne nourrit pas notre foi, on nourrit notre connaissance biblique. C'est un peu la différence qu'il y a entre les Sadducéens et les Hillel, puis Jamaï. fait une chose. C'est que Dieu se révèle dans ce qu'il est. Il se donne dans ce qu'il est. Quand il est immolé, quand il est crucifié, il est livré, il s'est livré lui-même. Parce que, en tant que personne intime, profonde, ancrée, source de tout ce qui, source de lui-même éternellement, il ne cesse de s'effacer devant sa propre source. Il s'enfonce toujours. Dieu ne cesse de s'enfoncer toujours, en s'effaçant et en disparaissant, en Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, voyant cet effacement en Dieu, de Dieu lui-même en lui, s'efface aussi, en se nourrissant délicieusement de ce qui en découle, dans les délices savoureux de cette mendication de Dieu. Et il y a toujours un renouvellement intérieur, et c'est l'effacement des personnes divines qui fait l'acte d'amour de Dieu, à l'intérieur de Dieu. Et c'est pour ça que quand Dieu a pris chair de la Vierge Marie, il a manifesté qu'il voulait la volonté éternelle du Père, c'est-à-dire l'amour, jusqu'à l'effacement, la disparition. Et que lui-même, il a dit lui-même, il faut que le monde sache que moi, Dieu, j'aime Dieu, que j'aime le Père. Alors il s'efface. Et la manière la plus spectaculaire, la plus manifeste, la manifestation la plus sublime de cet effacement victimal d'amour, brûlant d'amour de Dieu vis-à-vis de Dieu, c'est Jésus crucifié. Parce que Jésus crucifié, c'est pas avant tout les souffrances. Jésus crucifié, c'est pas avant tout la douleur, l'horreur, l'abomination, la destruction. C'est avant tout un senti brûlant d'amour qui brûle tout. Jusqu'à sa propre excellence, sa propre divinité, et ce qui s'enfonce. Intérieur de Dieu, Dieu ne cesse d'expirer éternellement d'amour en Dieu. Et puis la résurrection qui montre toujours cette conception, c'est que Dieu n'arrête pas de concevoir nous de manière incréée, continuelle, principielle, Dieu. C'est une disparition de l'effacement mutuel aussi. C'est une réapparition continuelle. Alors il y a la résurrection. Il y a la mort et il y a la résurrection. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'extraordinaire entre pour nous. Dans l'hostie, parce que dans l'Eucharistie, parce que Marie, c'est une des choses les plus extraordinaires de la contemplation virginale, royale, sublime, de plénitude divine de Marie dans sa compassion, parce que la contemplation mariale, souveraine, sublime, de plénitude divine de Marie dans le mystère de compassion, est un échange presque indivisible avec ce qui se passe à l'intérieur de Dieu qui se révèle à travers cet effacement éternel et cette manifestation toujours nouvelle, éternelle de vie qui détruit jusqu'à l'effacement des personnes. Enfin, Jésus et la résurrection détruit la mort et renouvelle la vie. Que le Saint-Esprit, cette contemplation de Marie dans ce mystère de compassion est tellement divine que du coup, elle est prise dans un oui nouveau au moment de la croix, dans cette transverbération, dans ce mystère de compassion. Elle est prise et ça envoie envahit la nature humaine unie à la plénitude de la divinité elle-même. Ça le refaillit complètement. C'est la foi de Marie qui vient envahir un peu, comme on dirait, un buvard est entièrement envahi d'un parfum délicieux. Une espèce d'invasion extraordinaire du mystère de la mort. Comme ça se réalise dans le mystère de compassion, elle s'efface elle aussi. Et elle réapparaît, si je puis dire, dans le mystère eucharistique de l'Église. C'est pour ça que Jésus lui a dit, voilà Jean, l'enchanterie éternelle du mystère de compassion. Et il y a le sacerdoce, voilà ce que je veux dire par là. À chaque fois qu'il y a l'Eucharistie, il y a Jésus qui est là, qui est ressuscité, qui renouvelle la divinité agréée de Dieu, dans l'inspiration du Saint-Esprit, qui renouvelle la vie éternellement dans la résurrection à la messe. Il y a Jésus prêtre éternel qui est passé au-delà du voile, et au-delà du voile il est cet holocauste brûlant d'amour de l'épousette dans l'époux. Il renouvelle la vie éternelle de Dieu en lui-même, mais en intégrant, si je puis dire, en effaçant la nature humaine, pour que dans l'instant même de son effacement, elle soit renouvelée dans une nature nouvelle, qui est une nature divine, c'est-à-dire une nature qui engendre un renouvellement de Dieu en lui-même à travers elle. Et à la messe, il y a la présence de la résurrection, il y a le sacerdoce, parce que le sacerdoce de Jésus, il y a Jésus, je veux dire, prêtre. La confession aussi, c'est Jésus prêtre. Dis-moi, je te pardonne tous tes péchés, tous les sacrements. Il y a Jésus prêtre, il y a le mystère de la résurrection, et c'est toujours d'ailleurs à travers le sacerdoce de Jésus qui a cette présence. Jésus est totalement ressuscité, ça on le sait bien. Ce n'est pas la divinité incréée à l'intérieur de Dieu qui est prêtre. C'est ce qu'il y a en Jésus ressuscité, dans les sommets de son union hypostatique glorifié, ce qui est la source de toutes les résurrections à l'intérieur de Dieu. Il devient avec le Père et le Fils, effacé dans l'unité des deux, source de renouvellement divin. Et c'est le sommet de son union hypostatique désirée qui introduit dans la résurrection, l'établit à la droite du Père comme prêtre. Et il est source du renouvellement divin intérieur et éternel de Dieu lui-même. Ça, il est prêtre. C'est dans son humanité qu'il est prêtre, c'est pas dans sa divinité. Enfin, c'est dans la pointe, en fait, de son humanité, et donc son sacerdoce. C'est la pointe des grandes profondeurs de son âme humaine, dans son union hypostatique et de son... Mais qui est l'engendrant? C'est le Père. Et le mystère de compassion de Marie, c'est Marie qui a offert dans la nature humaine les sommets et la pointe. Et donc elle a engendré le sacerdoce éternel du Verbe éternel de Dieu, qui devient un sacerdoce pour ça, l'a créé. Elle a engendré avec le Père et la Mère de la résurrection. Et donc à chaque Eucharistie, Jésus lui dit, voilà Jean, ton engendré, le sacerdoce éternel, que tu dois engendrer dans ton mystère de compassion est bien plus grand que le sacerdoce que je suis en train de vivre, tandis que j'expire, sans aucune comparaison. Elle comprend tout de suite, parce que le mystère de compassion est un mystère de contemplation, et on voit très bien ce qu'on contemple. Alors, c'est précipité dans le cœur de Jean pour faire passer ce mystère qu'elle venait de contempler. Donc elle devient d'acquiescer pour la supervenue du Saint-Esprit, le Père, l'engendre dans le sacerdoce de l'Église jusqu'à la fin du monde, et jusqu'à l'accomplissement et jusqu'à la plénitude divine de ce sacerdoce éternel. Et à chaque messe, il y a la présence engendrante de Marie de la présence réelle du sacerdoce victimal éternel selon l'ordre de Melchisedec de Jésus ressuscité. Et en même temps, il y a l'effacement, c'est l'hostie. En même temps, il y a l'effacement divin lui-même. Mais il faut que Marie aille jusqu'au fond. Divin, de l'effacement divin, de l'amour divin, de l'expiration agréée de Dieu dans son Fils bien-aimé. Et donc il faut bien sûr qu'elle soit dans ce mystère de compassion, celle qui réalise, l'état victimal qui va au-delà de l'impossibilité de la séparation de l'âme et de la divinité du Christ. C'est une impossibilité totale, mais voilà, ça va au-delà. Et donc, le mystère de compassion de Marie est très très fort, très grand. Et du coup, quand elle accepte ça, elle vient, elle est l'engendrant d'un mystère d'amour, d'embrassement à l'intérieur du Père, voyez comment on se dit. Elle est belle, la prière des Arméniens et des Maronites. Elle n'est pas seulement belle, elle est vraie, elle est tout à fait. Marie, dans son mystère de maternité, voyez, il y a une maternité divine de Marie, il y a un mystère de compassion qui engendre. Mystère de compassion engendre, elle engendre la présence réelle de la résurrection sacerdotale du Christ. Et elle engendre aussi la présence réelle de son état victimal sur la croix. Il a duré 36 heures, mais il est tellement intégré en elle, dans son acte de foi, à l'intérieur de l'effacement divin, qui transforme le Verbe de Dieu en épousée, expirant totalement dans l'époux, pour faire un mystère de noces de l'agneau, que du coup, elle rend cet état transitoire du tombeau, enfin du Saint-Sépulcre, du côté ouvert de Jésus, de la mort de Jésus, visible, extérieur, elle est tellement intégrée dans la révélation de Dieu lui-même, en ce qu'il fait en lui-même, comme lorsqu'il le réalise, dans l'holocauste brûlant d'amour, elle l'intègre tellement que la supervenue du Saint-Esprit l'assume, dans un engendrement et une fécondité où elle engendre la présence réelle de cet état victimal de Jésus crucifié avec lui-même dans l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, c'est l'état victimal de Jésus crucifié pendant qu'il est mort. C'est pas très difficile, je crois, à contempler. Ce qu'il faudrait, c'est que on puisse faire avec Marie, accompagner Marie et se fondre en Marie, en elle, lorsque elle se laisse être la source de la présence réelle et la mère de la présence réelle de Jésus prêtre éternel, ancien, au-delà du voile, elle engendre aussi. Cet effacement vis-à-vis de tout ce qui est appelé à être investi intérieurement par toutes les formes de l'amour éternel dans la matière d'un corps inanimé. Elle engendre la présence réelle de l'état victimal de Jésus crucifié. Dans l'Eucharistie, nous est révélé, nous est donné à manger délicieusement cette ouverture béante de la passion, de la mort de Jésus, de l'effacement. Jésus vient s'effacer en nous. C'est extraordinaire quand quelqu'un vient s'effacer en nous. Parce qu'il voit la foi que nous avons avec Marie dans l'Eucharistie, dans son état victimal. Et alors du coup, il répond à mon tour de me donner sans mesure. De me donner sans mesure, sans mesure, sans mesure, en m'effaçant sans mesure à l'intérieur de celui qui me reçoit sans mesure par la foi. Et il se donne sans mesure dans cet effacement d'amour, un brûlant d'amour en nous, pour pouvoir s'effacer à travers nous dans tout ce qui est création, nature humaine, matière, matière vivante, lumière, obscurité. Il s'efface à travers nous. Dans un amour sans mesure jusqu'à atteindre le fond même, et en même temps, et avec le même amour et sans mesure que celui avec lequel il s'efface, dans sa mort d'ailleurs. Dans le sein du Père, parce que même sa procession engendrante conception de Verbe éternel s'efface en sponsalité et il assure comme une réciproque dans l'échange de l'accueil du don prodigieux. Et il nous reçoit dans le mystère de compassion, dans un amour éperdument délicieux. Qui le plonge dans l'extase d'une mort victimale toujours plus profonde. Et c'est Marie qui engendre la présence réelle de cet état. Et c'est pour ça que c'est de la folie de voir quelquefois des chrétiens qui ne croient pas me dire « Oh ben, Jésus est mort, puis c'est fini, quoi. » Alors on croit à la présence réelle de l'homme du pain vivant, du pain consacré. Je crois à la présence réelle du pain consacré, voilà, oui. Là, je crois que c'est Jésus, voilà, c'est Jésus. C'est Jésus, mais c'est Jésus, mais Jésus, il est ressuscité, donc. Maintenant, on l'entend. Finalement, j'ai été content qu'on soit passé à la salette, parce que on a entendu ce prêtre-là, défini pain, je pense, ou italien, je sais pas. Et puis il a dit non, l'hostie, c'est le sacrifice, c'est Jésus sacrifié, c'est Jésus qui se sacrifie, quoi. Et dans la gloire du cœur de Marie, ça nous est donné, mais c'est Jésus qui se sacrifie, c'est le sacrifice, c'est pas. Alors que je peux vous assurer que c'est la première fois que je l'entends depuis 30 ans dans la bouche d'un prêtre, disons, séculier, quoi. Je les ai toujours entendus dire, c'est fini maintenant, la messe sacrifice comme un barreau ou quoi. Alors eux, évidemment, ils vivent la messe comme sacrifice, hein, ça c'est sûr. Hein, il n'y a plus rien, quoi. Eux, c'est la messe comme sacrifice, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Comme disait le père Emmanuel, quand vous êtes à la messe, mais vous tenez d'entre vos mains. Tenez dans votre bouche, baiser ardente à la communion. Vous tenez Jésus crucifié sur le Golgotha. Il est présent substantiellement crucifié sur le Golgotha. Et il n'est pas moins physiquement présent crucifié sur le Golgotha qu'au moment où vous le touchez. Quand la messe, c'est Jésus sur le Golgotha, devant vous, encore plus physiquement présent qu'il ne l'était sur le Golgotha. Parce que quand il était sur le Golgotha, sa manifestation de crucifié n'était pas aussi proche dans l'effacement en nous que maintenant. Donc sa présence physique de crucifié est beaucoup plus présente à nous dans la messe d'aujourd'hui. À l'époque du Golgotha, voilà Marie-Madeleine, les femmes qui étaient là au pied de la croix, c'était proche de toucher Jésus, elles auraient voulu dévorer Jésus crucifié. Mais à la messe, ben Emmanuel expliquait ça. Il avait toujours deux ou trois fois par an un petit couplet là-dessus, toujours à sa manière à lui. Mais c'est certain, de la messe, c'est sûr que quand Jésus est là, ni plus, ni moins. Et nous sommes là, devant Jésus crucifié. Et c'est Jésus qui meurt devant nous, et qui se donne directement à nous. C'est pas Jésus ressuscité, mais en même temps, vous avez un troisième aspect. C'est qu'au moment où il est la mort, crucifié, donnant l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu, s'effaçant en sponsalité en nous, en même temps, son âme, résurrection. Et ça, c'est un troisième aspect. L'âme de Jésus, pendant sa mort, elle est bien là. Elle est bien séparée. La mort implique l'état dans lequel se trouve le corps crucifié de Jésus, mort. Mais il y a aussi l'âme, et l'âme est là, vivante, toute glorieuse. C'est le fond glorieux de toute la Jérusalem céleste, qui est là, présente de manière palpitante et qui nous permet, de manière vivante et très profonde, d'être l'Église catholique, c'est-à-dire de convoquer tous ceux qui ne sont pas dans la mort et la résurrection du Christ. L'âme de suite aller chercher tous ceux qui étaient dans le fond, les plus grandes profondeurs des ténèbres, de l'Hadès, et des lieux inférieurs. Donc il y a bien trois aspects. Le sacerdoce qui est glorieux. À chaque fois qu'elle a passé, à chaque fois, c'est Marie et qui est là, comme l'ange entrante. Mais vous voyez, dans la convocation, là, il y a un mystère sponsal, il y a une réalité sponsale, puisqu'il y a, il y a Joseph devient quelqu'un, quelqu'un de, dans le fond, du rassemblement, de l'unité, de toutes les présences réelles, et du fait qu'il n'y a pas de voile, aucun voile, et que la mort et la résurrection, finalement, sont dans l'indissoluble, l'indivisibilité de l'Église, du ciel et de la terre, et aussi du monde divin, et a créé des personnes et des processions trinitaires. Et quelque part, c'est vrai, Saint Joseph, c'est la source. C'est une source eucharistique aussi. C'est la source de l'un. De l'indivisibilité. La convocation, la voix du coup, la mort et la résurrection et la fécondité de Marie, avec lui se manifester partout, grandir jusqu'à l'accomplissement de toutes les limites de ce qui existe en Dieu et en nous. Ça vient de lui. Petit à petit, on va petit à petit voir ça. Petit à petit, on va voir, on va comprendre petit à petit, dans leur raison, on va petit à petit sentir, éprouver, savourer ça. Parce que c'est merveilleux. Mais s'il n'y a pas de résurrection, hein, alors on est plus malheureux des hommes, c'est assez certain. Ben, si quand tu meurs, ben, c'est comme si on t'avait mis au congélateur en attendant le jugement dernier. Donc ça veut dire que tu penses que l'âme n'existe pas. C'est ça, je pense que l'âme n'existe pas, puisque ton corps, ben, il ressuscitera au jugement dernier. Mais entre les deux, mon père, ben, entre les deux, il n'y a rien. C'est comme quand tu vas à l'hôpital. Il n'y a rien. Alors, à partir du moment où on arrive à s'introduire, quand Dieu se révèle à travers ces trois fécondités du mystère de compassion de Marie, à partir du moment où on voit l'intérieur de Dieu qui se révèle à nous, et nous nous en nourrissons, qu'on le contemple, qu'on commence à le comprendre, à le voir, à en jubiler, à retrouver nos délices là, parce que c'est un étourdissement amoureux extraordinaire, de délices de gloire et de grâce, c'est sûr, c'est le mystère des noces de l'agneau, c'est fou, c'est très extraordinaire, ça n'enlève rien à la vie, à la participation à la croix, bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. Mais lorsqu'on rentre et que sous le souffle du Saint-Esprit, on voit dans la mort les moindres mouvements de délicatesse sans limite de Dieu en lui-même, à travers nous, et que notre corps s'adapte de l'intérieur à cette délicatesse inouïe, sans mesure, inconditionnelle, et qu'on s'y laisse transformer. À ce moment-là, on est complètement éperdu et on se perd complètement dans l'œuvre transformation que Dieu veut opérer en mettant toutes ces choses de lui-même en lui-même à son accomplissement. Et donc avec lui, on s'enfonce à nouveau dans Jésus crucifié. On s'enfonce à nouveau à partir de cette glorieuse de délice, de victimale, d'effacement, d'inspiration. On s'enfonce avec lui dans le temps de la terre pour l'accompagner comme prêtre éternel, se réincarner pour s'effacer à nouveau dans Jésus crucifié, l'hostie qui arrive. Et on s'enfonce, on devient de plus en plus identique à Dieu qui, dans sa divinité, embrasse la nature humaine tout entière en s'enfonçant en elle, de manière eucharistique jusqu'à la croix et les racines même des sources de leurs existences. Le mystère chrétien du sacerdoce royal, il est contemplatif, ressuscité, vivant, et s'enfonce dans l'oblation, il redescend, il revit. Avec tout, vous voyez, je ne sais pas comment dire, vous voyez, c'est un peu, quand on dit le chapelet angélique, il y a quelque chose de ça. On demande à chaque fois, les sept manières différentes, d'être absorbé, assimilé au Dieu, dans l'accomplissement des temps, à l'intérieur de son éternité, pour répondre à nouveau à la foi de Marie, pour redescendre, s'enfoncer par de l'éternité, s'engloutir. Comme le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel et s'enfonce, s'incarne, se réalise dans ce mystère de passion, d'agonie, de ta vita Christi, crux sui, de croix, d'Eucharistie. Pour la conversion d'Israël, pour l'ouverture des temps, pour mon enfant. Pour la guérison miraculeuse de mon évêque. Mais la foi à la résurrection fait qu'on s'enfonce avec Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur prêtre, dans notre sacerdoce royal, dans l'immolation de Jésus crucifié, donné en nourriture à Marie. Parce que le fond du fond du fond de tout, c'est le principe de tout. Le principe de tout, c'est l'Immaculée Conception. Bon, je m'excuse, c'est un peu sommaire ce que je vous raconte là, mais c'est normal, parce que je suis un peu enrhumé.
Le Bereshit, c'est pas le principe?
Oui, bien sûr, le Bereshit, c'est le principe, oui.
À travers l'Immaculée Conception?
Pas l'Immaculée Conception, c'est qu'est-ce qui émane du principe.
D'accord. Dans l'accomplissement, dans ça, d'accord.
Il y a une indivisibilité dans le principe. Sinon, ce ne serait pas un principe. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions.